Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. Au Nigeria, des centaines d'habitants de Damasak, dans le nord-est du pays, fuyaient mercredi vers le Niger voisin à la suite d'une série d'attaques djihadistes. Michel Joseph nous donnera les détails. Au Burkina Faso, au moins 8 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués et d'autres portés disparus mercredi lors d'une embuscade dans le département de Gorgadji, tendue à une de leurs patrouilles dans le nord du pays, selon des sources sécuritaires et locales. Au Bénin, le président Patrice Talon a durci le ton mercredi au lendemain de sa réélection, promettant de poursuivre et de punir les responsables de violences préélectorales. Nous y reviendrons avec Rosine Mounizero. En Côte d'Ivoire, le parquet de la cour d'assises d'Abidjan a requis mercredi la prison à perpétuité contre l'ancien chef de guerre Amadé Ouérémi, accusé de crimes contre l'humanité dans l'ouest du pays en 2011, lors de la crise post-électorale. La défense a pour sa part dénoncé des zones d'ombre dans ce procès qui a débuté le 24 mars et dont le verdict est attendu jeudi. Des soldats érythréens ont fait 3 morts et au moins 19 blessés en tirant lundi sur des civils désarmés à Adoua, dans la région septentrionale éthiopienne du Tigré, en guerre, a affirmé mercredi Amnesty International. A noter qu'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Tigré se tiendra ce jeudi à la demande des États-Unis, selon des sources diplomatiques. Le Danemark est devenu mercredi le premier pays européen a annoncé l'abandon du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, justifiant ce choix radical par les effets secondaires rares mais graves de ce vaccin, malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour son utilisation. La pause dans l'administration du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis est prolongée d'au moins une semaine. Un groupe d'experts réunis mercredi ayant dit avoir besoin de plus de temps pour évaluer ses possibles liens avec la formation de graves caillots sanguins. Le président américain Joe Biden a confirmé mercredi le retrait de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis. La policière blanche qui a abattu un jeune Africain-Américain près de Minneapolis dans le Minnesota a été arrêtée mercredi et inculpée pour homicide involontaire, puis libérée sous caution. Des manifestations marquées par des affrontements avec la police ont eu lieu mercredi soir à Minneapolis pour la quatrième nuit consécutive. Abdulrahman Dia fera le point. À Minneapolis pendant ce temps, après 2 semaines accablantes pour la défense, l'avocat du policier blanc Derek Chauvin, accusé d'avoir tué l'Africain-Américain George Floyd, a marqué des points mercredi avec le témoignage d'un médecin légiste qui a contredit les experts produits par l'accusation. Selon ce dernier, Floyd était mort d'un arrêt cardiaque et non par asphyxie sous le genou du policier. Une commission du Congrès américain a entamé mercredi soir un débat très attendu sur le principe d'une compensation financière pour réparer les méfaits de l'esclavage en vigueur aux États-Unis de 1619 à 1865, avant un premier vote historique dans un pays encore marqué par les discriminations raciales. Les démocrates du Congrès prévoient d'introduire ce jeudi, selon l'agence Reuters, un projet de loi visant à ajouter 4 autres juges aux 9 de la Cour suprême des États-Unis, une proposition destinée à briser l'emprise des conservateurs sur la Cour et qui promet de susciter une opposition farouche de la part des républicains. Le premier ministre japonais se rend à Washington où il deviendra demain vendredi le premier dirigeant étranger à s'entretenir en tête-à-tête avec le président américain Joe Biden. Les inquiétudes à l'égard de la Chine devant dominer l'ordre du jour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC.
de l'Ouest, ou ISWAP, ont lancé hier un nouvel assaut contre une base militaire de Damasak, non loin de la frontière avec le Niger. C'est la quatrième attaque sur la ville depuis samedi. Durant cette dernière attaque hier, des djihadistes à bord de plusieurs camions équipés de mitrailleuses ont provoqué la fuite des derniers habitants vers le Niger. La veille, mardi soir, les djihadistes ont brûlé un poste de police, faute d'avoir pu prendre le contrôle de la base locale de l'armée. Depuis samedi, de nombreux habitants ont dû fuir pour se réfugier à Maïdougouri, la capitale régionale, ou vers la ville de Diffa, au Niger. Ces attaques ont provoqué la destruction d'installations humanitaires et ont fait au moins 4 morts, dont un soldat nigérian. Depuis le début de l'insurrection islamiste en 2009, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En 2016, le groupe Boko Haram s'est scindé en deux factions. D'un côté, la branche historique est dirigée par Aboubakar Shekau et de l'autre, l'ISWAP, reconnu par le groupe État islamique.
Le président béninois Patrice Talon a durci le ton au lendemain de sa réélection, promettant de poursuivre et de punir les responsables des violences préélectorales qui avaient éclaté dans le centre du pays. Le point avec Rosine Mounezero.
Le Bénin s'est réveillé mercredi après une... à l'hôpital pour visiter les membres des forces de l'ordre blessés pendant les manifestations. On a atteint des proportions inacceptables de violence et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais, a déclaré M. Talon, qui a promis d'identifier les instigateurs. Mardi soir, la commission électorale a annoncé sa victoire avec plus de 86% des voix face à deux députés très peu connus. L'opposition, empêchée de participer à ce scrutin, avait appelé à boycotter le scrutin. Elle a accusé les deux autres candidats d'être des faire-valoir du président Talon. Les États-Unis ont appelé hier le pouvoir à tenir des consultations afin de s'assurer que les élections futures soient compétitives et inclusives.
Aux États-Unis, arrestation de la policière qui a abattu un jeune homme noir près de Minneapolis. Kim Porter a été inculpé d'homicide involontaire. Le point avec Abdourahman Dia.
La policière de 48 ans a ouvert le feu dimanche sur Dante Wright, un Africain-Américain de 20 ans, lors d'un banal contrôle routier à Brooklyn Center, près de Minneapolis. Elle a assuré avoir confondu son arme de service avec son taser ou pistolet électronique. Elle a démissionné mardi, tout comme le chef de la police de Brooklyn Center. Elle encourt désormais jusqu'à 10 ans de prison. La famille de Dante Wright a pris acte hier de la décision du procureur de l'inculper, mais a critiqué les justifications de la police. Une agente avec 26 ans d'expérience sait faire la différence entre un taser et une arme à feu, a écrit leur avocat Ben Crump dans un communiqué. On va continuer à se battre afin d'obtenir justice pour Dante, sa famille et toutes les personnes de couleur. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas obtenu de réelles réformes de la police et de la justice, a-t-il indiqué. Le drame survenu pendant le procès pour le meurtre de George Floyd a été suivi de 3 nuits de manifestations émaillées de violence. Des dizaines de personnes ont été interpellées.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le port autonome de San Pedro dispose de 3 nouvelles grues d'un montant de 12 milliards de francs CFA. Ces nouveaux équipements ont été offerts par la société MSC, un armateur qui a signé une convention avec le port. San Pedro a enregistré un trafic global de marchandises évalué à plus de 5 millions de tonnes en 2019 et espère atteindre les 10 millions de tonnes en 2025. Une grande part du cacao ivoirien transite par ce port. Numida Technologies, une start-up spécialisée en technologie financière, cherche à se développer en Afrique de l'Ouest. Basée en Ouganda, Numida soutient des micro, petites et moyennes entreprises avec des prêts non garantis. Pour limiter les défauts de paiement, l'entreprise a élaboré un mécanisme qui lui permet d'obtenir les flux de trésorerie ainsi que les antécédents financiers des structures sollicitant les prêts. Ici aux États-Unis, l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, Bernie Madoff, est mort à 82 ans en Caroline du Nord, où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Les sommes réclamées par les investisseurs, qui ont saisi la justice après l'éclatement du scandale, atteignaient plus de 17 milliards de dollars.
Merci Claire, et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les demi-finales de la Ligue des Champions opposeront le Real Madrid à Chelsea et Manchester City au Paris Saint-Germain. Fort de son avance de 2 buts, le Real Madrid s'est qualifié pour les demi en résistant aux assauts de Liverpool 0-0. Au match aller, le Real s'est imposé 3-1 à Madrid. Les Madrilènes affronteront donc en demi Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy. Mission accomplie également pour Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez, vainqueur 2-1 de Dortmund en quart de finale retour comme au match aller et qui fera face au Paris Saint-Germain en demi. Les confrontations auront lieu les 27 et 28 avril puis les 4 et 5 mai avec en jeu un billet pour le stade Atatürk d'Istanbul, théâtre de la finale programmée le 29 mai. En Ouganda, le capitaine des Crânes Denis Onyango prend sa retraite internationale à l'âge de 35 ans. C'est avec le cœur lourd que je vous annonce ma retraite internationale après plusieurs réflexions. Ma famille, mes managers et moi avons décidé dans l'intérêt de tout le monde de ranger les gants, a expliqué le portier des Mamelodi Sundowns. Sélectionné en équipe nationale à 78 reprises, Denis Onyango a remporté le titre de meilleur joueur africain basé en Afrique en 2016. Les Lions indomptables n'iront pas à Tokyo pour l'épreuve de football féminin aux Jeux Olympiques. Après sa défaite 2-1 face au Chili, lors du match aller de barrage disputé sur terrain neutre à Antalya, en Turquie, le Cameroun s'est contenté d'un match nul 0-0 au match retour. Les protégés d'Alain Diomfa sont donc éliminés. La Zambie restera l'unique représentante africaine dans l'épreuve féminine. Pour rappel, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et l'Égypte représenteront l'Afrique chez les hommes. Cette question justement, faut-il s'inquiéter de la tenue des JO? Une étape du relais de la flamme olympique annulée, mise en garde inquiétante d'un responsable médical. À 100 jours hier du coup d'envoi des Jeux olympiques de Tokyo, la pandémie de coronavirus jette une ombre sur le déroulement des JO. Déjà reporté d'un an et prévu cet été, le gouverneur du département d'Ehime sur l'île japonaise de Shikoku dans l'ouest a annoncé hier que le relais de la flamme ne passerait pas par la ville de Matsuyama, sa capitale, à cause de la pression extrême que subit actuellement le système hospitalier local. Ce nouveau revers vient encore compliquer la tâche des organisateurs confrontés à des doutes persistants quant à la possibilité de tenir ces JO prévus s'ouvrir le 23 juillet.
Merci Yacouba. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, le président déchu, Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire, va être jugé pour l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara lors du coup d'État de 1987 qui a porté M. Compaoré au pouvoir. Le dossier a été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les 14 accusés, dont l'ex-président Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Ils sont accusés d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Yacouba Ouédraogo a joint Aziz Salmon Fall, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Thomas Sankara.
Il faut rappeler que nous avons épuisé tous les recours au Burkina Faso, que nous avons gagné aux Nations Unies, que nous sommes revenus au Burkina Faso avant la période de la révolution et après. Et donc pour nous, c'est un début de victoire de la pression du peuple burkinabé. Et nous espérons surtout que les éléments de la France-Afrique pendant longtemps soutenu ce type d'exaction et de manipulation de la magistrature seront dorénavant contenus et qu'on pourra aller sereinement vers un procès.
14 personnes sont mises en cause dans cette affaire dont Blaise Compaoré. exilé en Côte d'Ivoire et qui est désormais ivoirien de par son épouse. Est-ce que si le procès se tenait sans sa présence, ce serait quand même un soulagement pour vous?
Non, il n'y a pas de soulagement. Je crois qu'il sera jugé par contumace, ainsi que Hyacinthe Kafando. Vous savez, le dispositif de la France-Afrique va protéger l'ex-président Compaoré, mais probablement avec le troisième lot des déclassifications de la France et avec peut-être un procès en bon et nu du forme, il sera tout simplement condamné. Les charges sont assez lourdes telles qu'elles ont été retenues. Lui-même ne semble pas vouloir procéder à sa défense. Par contre, ses exécutants seront jugés. Donc il faut bien sûr un procès dans lequel les commanditaires, même à l'extérieur, doit figurer dans ce procès.
Vous parliez de dispositif de la France-Afrique. À quoi ou à qui vous pensez?
Le dispositif de la France-Afrique a toujours paralysé les initiatives de développement progressiste dans la sous-région. C'est le même qui a tué Ben Barka, c'est le même qui ont déstabilisé le Cameroun, qui ont permis justement à Blaise Compaoré de pouvoir s'instaurer. Donc c'est un dispositif très complexe de réseaux affairistes, de réseaux d'État, de réseaux militaires qui ont permis à nos dirigeants pendant des années et qui permettent encore à certains d'entre eux d'être en selle.
Justement, ce ne serait pas juste un procès d'exécutants, on n'aura pas peut-être la présence des personnes qui auraient commandité.
Les vrais responsables, certains sont morts, d'autres sont encore vivants. L'essentiel, c'est que le procès aura lieu. Le Burkina enfin rejoint la communauté des pays de droit et je crois que pour une fois, on aura une magistrature qui va oser faire dire le droit. Ensuite, le peuple et l'ensemble de la population du Burkina, je crois, est le principal témoin et bénéficiaire.
À la fin de ce procès, ce serait la fin de votre combat pour justice pour Thomas Sankara?
Oui, effectivement, notre lutte a commencé en même temps que la révolution du Burkina en 1984 et nous avons toujours défendu l'idée d'un développement autocentré et panafricain. Cette longue diversion, cette lutte contre l'impunité a effectivement fait dévier la lutte que nous menons pour le panafricanisme et pour un développement autocentré et celui-là va continuer. Mais l'exemple de la lutte contre l'impunité va servir dans beaucoup d'autres cas, comme celui de Lumumba, comme celui de Ben Barka, parce qu'il crée une jurisprudence au niveau du droit international.
Aziz Salmon Fall, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Thomas Sankara.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ce constat à Dakar, au Sénégal, en ce début de mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité sont en hausse. Une situation qui n'est pas du goût des clients, nous dit notre correspondant sur place, Sedina Abagué.
Nous sommes au marché Grand Œuf de Dakar. Le site est bondé de monde en ce début du mois de Ramadan. L'heure est aux courses car les garde-manger doivent être bien fournis. C'est ce qui explique le rush. Mais il y a un hic. Awa, venu faire ses achats, nous révèle que les prix des denrées sont en hausse.
Les prix des denrées sont en hausse, surtout les légumes et le poisson. Ils ont attendu le Ramadan pour revoir à la hausse tous les prix. C'est inadmissible. Le prix du kilogramme de carottes est fixé à 400 voire 500 francs. Je viens au marché avec 5000 ou 6000 francs, mais c'est insuffisant. Un morceau de poisson coûte 2500 francs.
Un autre marché, une même situation. Au marché Castor, apparemment les prix des denrées sont aussi chers comme le confit Mariam Diouf. Elle demande aux commerçants d'être sensibles à la précarité des gens et de revoir les prix à la baisse en cette période de Ramadan.
Je suis venu faire mes courses, mais franchement, tout est cher. J'implore le Tout-Puissant qu'il nous aide, par la grâce du Ramadan, de nous permettre d'avoir de quoi nous nourrir. Le riz et l'huile coûtent excessivement cher. C'est trop dur.
Aucune raison ne peut justifier une hausse des prix. C'est pourquoi l'Association nationale des commerçants, Unakwa Yesal, exhorte ses membres à faire preuve de plus de compassion et de responsabilité en cette période de Ramadan. Cheikh Cissé est le président de la structure.
Comme à l'accoutumée, nous demandons à nos membres de ne pas augmenter les prix des denrées alimentaires en cette période de préparatif du Ramadan. Ils ne doivent pas aussi vendre de la marchandise périmée ou encore de la fraude. Nous savons que le marché sera bien approvisionné, ce qui est une assurance des autorités, donc il n'y a pas de raison d'augmenter les prix.
Ces propos sont confirmés par Omar Diallo, directeur du commerce intérieur, qui indique que les autorités ont fait le nécessaire pour la stabilisation des prix. Selon lui, il y aura assez de denrées de première nécessité pendant et après le Ramadan.
Concernant le sucre, notre pays dispose d'une seule usine, la compagnie sucrière sénégalaise. En ce moment, elle dispose d'une quantité de 65 000 tonnes en stock. Pour l'huile, nous enregistrons un stock de 26 000 tonnes disponibles sur le marché et pour le riz, 269 000 tonnes. Quant à la production de pain, les boulangers ont assez de blé pour satisfaire le besoin des populations durant un mois et demi. Enfin, pour le lait, nous disposons de 8 000 tonnes sur le marché local. Voilà pourquoi nous pouvons vous assurer qu'il n'y aura pas de pénurie de denrées de première nécessité durant le mois de Ramadan et même après.
Le Ramadan 2021 est marqué par le contexte de pandémie accentué par la crise économique. Force est de constater que de nombreux Sénégalais ont un pouvoir d'achat faible. Voilà pourquoi les consommateurs déplorent déjà la hausse des prix de certaines denrées de première nécessité malgré les assurances des autorités. De commercial. C'est Dina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Cameroun, l'activité économique a progressivement repris le long de la frontière avec le Nigeria, malgré la présence continue du groupe terroriste Boko Haram. Les marchés ont rouvert et les commerçants des deux pays font savoir que le voyage dans la zone frontalière est désormais plus sûr grâce à une forte présence militaire. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis la ville frontalière d'Amtchidé au Cameroun. Le récit est de Mohamedou Humfa.
Oumar Oufouman, 40 ans, vendeur de carburant, observe que la vie revient progressivement à la normale à Amtchidé, à la frontière nord du Cameroun avec le Nigeria. Selon lui, de nombreux marchands sont entrés au Cameroun depuis le Nigeria avec des appareils électroniques, des pièces automobiles et de la nourriture à vendre.
Ce n'est pas dans toutes les zones de la région qu'il y a les stations mobiles. Le prix du super, par exemple, coûte 654 environ, pendant que le prix des oiseaux est à 350.
Séni Lamine Boukar est le dirigeant et maire de Kolofata à la frontière avec le Nigeria. Boukar et 5 membres de sa famille ont été enlevés par les combattants de Boko Haram en 2014 et relâchés au bout d'une semaine. Selon lui, les affaires reprennent à Kolofata et les éleveurs ont recommencé à fréquenter le marché de bétail. Il note tout de même qu'il y a toujours un problème de sécurité.
La première chose à faire est de nous aider à finaliser les actions de sécurité et aussi à dynamiser les activités commerciales. Amtchidé est un grand carrefour commercial avec des gens venant de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et ainsi de suite.
Les défenseurs des droits humains sont aussi préoccupés par la sécurité à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Hilaria Allegrosi est chercheuse pour Human Rights Watch en Afrique centrale.
La situation sécuritaire reste extrêmement instable et la violence continue de faire fuir les gens. Par exemple, à la suite de l'attaque de Boko Haram le 8 janvier à Mosogo, des centaines de personnes ont quitté leur domicile pendant plus d'un mois.
La chercheuse de Human Rights Watch propose de renforcer le dispositif sécuritaire tout en veillant au respect des droits de l'homme par les militaires.
Il faut faire plus pour protéger efficacement les civils dans la région de l'extrême nord, notamment en renforçant la présence militaire et les patrouilles, tout en veillant également à ce que les soldats respectent les droits de l'homme.
Boko Haram se bat depuis 11 ans pour créer un califat islamique dans le nord-est du Nigeria. Les combats qui ont débordé au Cameroun, au Tchad et au Niger ont fait près de 30 000 morts et environ 2 millions de déplacés.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'état de la démocratie en Afrique. Les dernières élections au Tchad et au Bénin, qui ont vu l'absence des principaux opposants, ont suscité un débat sur le recul démocratique sur le continent. Plusieurs analystes évoquent une volonté de confiscation du pouvoir par les régimes en place. Entre modifications constitutionnelles, arrestations ou exil d'opposants, ou tout simplement leur disqualification dans les processus électoraux, la démocratie est-elle sous attaque, y compris dans des pays qui étaient jusqu'ici cités en exemple. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Une réforme de la loi 2001 relative aux associations est en cours au Togo. Une révision de la législation qui peut déboucher sur des dispositions liberticides craint la société civile, alors que le pays est déjà à mauvaise posture quant à l'ouverture de son espace civique, nous dit Alomé Kayi Lawson.
L'espace civique togolais est réprimé. Cette appréciation émane du réseau Civicus qui l'affirme au vu de son indice 2020 sur l'ouverture de l'espace civique dans le monde. Pour élaborer son indice, Civicus se base sur trois critères fondamentaux, notamment la liberté d'association, la liberté d'expression et la liberté des manifestations pacifiques. Ghislain Halédi, secrétaire exécutif du FODET, le Forum des organisations de défense des droits des enfants au Togo.
Le Togo est passé d'un espace civique obstrué à un espace civique réprimé. Et ça, c'est selon Civicus, une organisation qui veille sur l'espace civique. Et je crois que c'est important qu'au Togo, on fasse des efforts pour retourner vers un espace obstrué et dégraisser jusqu'à aller à un espace ouvert. Lorsque nous sommes dans un espace ouvert, c'est en ce moment que il y a toutes les libertés qui sont respectées et on peut parler des droits de l'homme.
Dans un état de droit, des dispositions sont mises en place pour veiller au respect des libertés et droits fondamentaux. Au titre de ces dispositions, figure en bonne place le contrôle de la constitutionnalité. Au Togo, la saisine de la Cour constitutionnelle est limitée à certaines autorités, ce qui constitue une limite au contrôle de constitutionnalité, estime Tikonimbe Kupopa, professeur de droit constitutionnel à l'université de Lomé.
On constate que cette saisine n'est pas toujours ouverte aux citoyens. Et fondamentalement, il s'agit d'une limite au contrôle de constitutionnalité des lois, puisque ce contrôle vise à protéger les droits et libertés des citoyens. Or, les citoyens n'ont pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, on leur reconnaît un droit sans leur donner les moyens de jouir de ce droit. Donc il faut nécessairement que cette saisine soit ouverte. Ça permettra aux citoyens de défendre leurs droits violés par les pouvoirs publics.
Selon des informations émanant des organisations de la société civile, le gouvernement togolais veut réformer la loi de 1901 relative aux associations. Ces dernières souhaitent que les réformes en perspective se conforment aux lignes directrices sur la liberté d'association et de réunion en Afrique. Autre point d'inquiétude est l'obligation de transmettre des rapports d'activités financières à l'administration centrale. Bruno Haden, secrétaire général de la CAT Togo, Association des chrétiens pour l'abolition de la torture.
Au niveau de l'aspect civil, nous sommes d'accord pour que les rapports en interne soit fait. Maintenant, notre inquiétude, c'est le fait que dans les nouvelles dispositions, il y a des sanctions si on n'est pas régulier pour fournir ces 10 rapports. Donc, nous demandons simplement aux législateurs de prendre en compte notre proposition de ne pas rendre cette disposition obligatoire parce que assortie des sanctions, ça peut faire mal si, par mégarde, une association oublie de fournir ce genre de rapport.
Pour une meilleure ouverture de l'espace civique, les organisations de la société civile comptent mener des plaidoyers, comme l'annonce Ghislain Halédi du FODET.
D'ici peu, on fera des lobbying, on fera des plaidoyers pour que l'État revoie un peu la loi, afin qu'on ne puisse pas aller jusqu'à un espace fermé. C'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, la société civile aussi doit jouer son rôle pour qu'on puisse aller à l'idéal qui est un espace ouvert.
Il y a encore quelques années, toutes les associations de la plupart des pays d'Afrique francophone étaient régies par la loi française du 1er juillet 1901. Entre-temps, des pays comme le Burundi, le Congo ou encore le Rwanda ont modifié cette loi et l'ont adaptée aux réalités et exigences actuelles de leur pays. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.